Radio Stable.
Morning Edition from NPR
News.
Radio Rosana Piperino.
Que se reproduce dentro de la radio.
France Inter. Le 18-20.
Ils nous ont chassés de l'université à coups de fusil. Nous avons dû fuir et à partir de ce moment-là, j'ai changé 7 fois d'endroit.
C'est au Nicaragua que nous sommes pour l'escale reportage ce soir. Le Nicaragua où être opposant, c'est se cacher comme cette personne que vous venez d'entendre et manifester pour protester est devenu aussi notamment dans les églises quelque chose de très régulier et d'express. On vous explique dans quelques minutes sous les radars et Amélie Perrier où il sera question de l'état de santé d'Ali Bongo, d'élections à Madagascar qui ont embarrasse même le gagnant, ou de boxe thaï interdite pour les enfants. 18h50, le cinéma en VO et Eva Bétan qui a vu Mon cher enfant de Mohamed Ben Atia qui traite de départ en Syrie comme nous les avons connus nous aussi. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Pendant que les yeux de l'Europe sont sur le Brexit, on regardera nous du côté de l'Italie qui n'a pas bougé une virgule de son budget. Mais d'abord, c'est entre le Bangladesh et la Birmanie que je vous emmène. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Les ONG ont déjà dit combien elles craignaient le retour des Rohingyas en Birmanie, programmé théoriquement pour ce jeudi, demain le 15 novembre. L'ONU a dit stop aussi. Si on rappelle les chiffres, ce sont presque 1 million de Rohingyas qui ont quitté la Birmanie depuis août 2017. Les persécutions, on les connaît. Aung San Suu Kyi, qui est à l'ASEAN, le sommet annuel des nations d'Asie et du Sud-Est, d'Asie du Sud-Est, est plus d'une fois mise devant ses responsabilités, peut-être plus encore cette fois d'ailleurs. Bonsoir Florence Denis.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des opérations et des ressources techniques chez Handicap International. Vous faites partie d'ailleurs des associations Handicap International qui avaient signé une tribune pour dire il faut pas qu'elle rentre tout de suite, pas tout de suite en tout cas pour les Rohingyas. Et vous êtes en duplex de Lyon. On remercie nos amis à Lyon de vous prêter leur studio. Des nouvelles qui vous parviennent, Florence Denis. D'abord, est-ce qu'on peut dire que les Birmans réfugiés au Bangladesh sont terrorisés à l'idée de rentrer? C'est ce qu'on a lu ici et là. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux cette situation en ce moment?
Absolument. À l'annonce de ce rapatriement, les Rohingyas actuellement réfugiés au Bangladesh se trouvent dans un état véritablement proche de la panique. L'absence en fait d'informations fiables et impartiales quant aux conditions de rapatriement et de vie dans l'état du Rakhine a véritablement accentué leur peur. Ce que l'on nous rapporte actuellement, ce que mes équipes me rapportent, c'est que les rumeurs les plus folles en fait circulent dans les camps et du coup entraînent des mouvements de population d'un camp vers un autre parce que un certain nombre de réfugiés, par exemple, ont peur que ce soit le camp X ou le camp Y qui passe en premier. On a également des rumeurs de suicides, de tentatives de suicide. On a également des fuites d'hommes parce que tout d'un coup les hommes ont pensé que c'était peut-être eux qu'on allait rapatrier d'abord. Donc énormément de mouvements, énormément de panique dans les camps. Certains réfugiés aujourd'hui maintenant se cachent afin d'éviter d'être inscrits sur quelque liste que ce soit, évidemment empêchant du coup les organisations humanitaires de faire leur travail. On ne peut travailler qu'avec les gens qui nous connaissent déjà, mais tous les nouveaux arrivés ont tellement peur d'être inscrits sur une liste qu'ils se cachent. Qui ne peuvent plus avoir accès à aucune assistance humanitaire.
Normalement, ces rapatriements sont censés se faire, c'est ce qu'il y avait en tout cas dans l'accord qui a été signé entre le Bangladesh et la Birmanie, ces rapatriements sont censés se faire sur la base du volontariat. Est-ce que de ce que vous rapportent les équipes sur place, c'est compliqué ce volontariat? Est-ce que au fond, ces fameuses listes dont vous parlez, les gens savent réellement qui s'inscrit, qui ne s'y inscrit pas? Est-ce qu'il y a quelque chose de cohérent au moins qui se passe là-bas ou pas du tout?
Non, pour l'instant, tout est possible et tout est imaginable. Personne ne sait quels sont les noms sur cette liste, personne ne sait comment cette liste a été organisée. Il faut se rappeler qu'un rapatriement doit être effectivement fait sur une base volontaire, mais également dans la dignité et dans la sécurité. Et ce sont vraiment ces trois conditions aujourd'hui que nous estimons ne pas être présentes. Le rapatriement volontaire, effectivement, nécessite d'être informé de la situation dans le pays de retour. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune information sur ce qui se passera une fois la frontière passée.
Est-ce que les gens ont demandé l'asile politique au Bangladesh? Est-ce que ça se passe comme ça également? Est-ce que ça peut se passer comme ça? Je vous pose la question parce que théoriquement, si un dossier d'asile a été déposé, on ne devrait plus obliger quelqu'un à rentrer. Comment ça se passe au Bangladesh? J'imagine que c'est évidemment moins organisé que ça peut l'être chez nous, mais ça existe quand même, j'imagine.
Oui, mais la grande majorité des réfugiés nous disent vouloir rentrer. Je pense que c'est ça l'important. Ils veulent rentrer chez eux, ils veulent rentrer dans leur lieu d'origine, pas n'importe où au Rakhine. Ils veulent aussi évidemment avoir des garanties qu'ils bénéficieront des mêmes droits et aussi de leur citoyenneté. Ils n'ont pas envie d'être réfugiés ad vitam aeternam au Bangladesh.
Ça veut dire qu'ils veulent des garanties, mais l'idée n'est jamais de rentrer, ni même de quitter les camps, de refaire sa vie ailleurs que dans leur territoire.
Absolument, oui. La plupart d'entre eux veulent vraiment rentrer en Birmanie et ont vraiment cet espoir-là, même si certains d'entre eux sont par contre présents depuis très longtemps au Bangladesh. Il faut se rappeler que dans le million de réfugiés présents en ce moment dans les camps de Cox's Bazar, il y a à peu près 200 000 personnes qui sont là depuis très longtemps. Mais les nouveaux arrivés n'ont qu'une envie, c'est de repartir chez eux.
Vous, ONG, et collectivement, pour que ces gens puissent rentrer, quelles sont les garanties que vous demandez réellement? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer et aussi rassurer bien sûr les Rohingyas qui sont encore dans les camps aujourd'hui?
Qu'une information soit donnée à l'ensemble des réfugiés sur les conditions de retour et donc qu'il y ait une vraie visite des Nations Unies en Birmanie, sur l'ensemble des villages qu'ils devraient pouvoir recevoir ces fameux réfugiés lorsqu'ils seront rapatriés, qui est donc une visite impartiale de ces lieux, que l'on puisse donner une information à l'ensemble des réfugiés sur ce qui va se passer et dans quel endroit ils vont être rapatriés, et puis surtout la garantie qu'ils puissent bénéficier effectivement d'une citoyenneté complète, pleine et entière.
On sait que Aung San Suu Kyi avait été montrée du doigt ces derniers mois pour la manière dont les Rohingyas ont été traités. On sait qu'il y a eu un certain nombre de ces récompenses en fait qui lui ont été enlevées, comme tout récemment d'ailleurs ça a été le cas de la part d'Amnesty. Je voudrais qu'on l'écoute. En fait, c'était lundi, donc avant-hier, à l'ouverture du sommet de l'ASEAN. On l'écoute, on se retrouve juste après. On s'en souvient.
A posteriori, il y avait d'autres manières de gérer la situation. Mais nous croyons que nous devons être équitables avec toutes les parties pour la stabilité et la sécurité sur le long terme. L'état de droit doit s'appliquer à tout le monde.
Il y a deux choses, Florence Denis, qui sont intéressantes à relever dans ce que dit Aung San Suu Kyi. D'abord, la première chose, on va commencer par la bouteille à moitié pleine, l'aveu qu'on aurait pu faire différemment. À ma connaissance, je ne sais pas si elle l'avait déjà dit. En fait, je ne crois pas. Est-ce que c'est déjà un pas de reconnaître ça, selon vous, ou pas?
Alors, à ma connaissance, elle ne l'avait jamais dit non plus, effectivement. Donc oui, bien sûr que c'est un pas dans la bonne direction.
Alors, l'autre chose, c'est de mettre les deux parties dos à dos. Et là, effectivement, on revient à la case départ. On l'entend dire, mais on entend du coup qu'elle parle aussi à sa population en Birmanie. Les torts sont partagés, il y en a de chaque côté, y compris de la part des Rohingyas.
Il est normal qu'elle ait ce discours-là. On sait, nous, de notre côté, toute la problématique de ce qui s'est passé il y a déjà pas mal de mois et la manière dont les Rohingyas ont été chassés de chez eux. Que les torts soient partagés initialement, peut-être, cela n'excuse pas la manière dont cette population a été...
Traité, absolument.
Excusez-moi, les
odieusement, mais absolument. Oui, je vous en prie.
Mais voilà, ça n'excuse rien.
La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que le peuple birman n'a jamais critiqué Aung San Suu Kyi sur cette question-là. La réconciliation, on va dire, entre les Birmans et les Rohingyas, elle n'est pas faite. Elle ne sera probablement pas faite lorsqu'ils rentreront, et on verra à quel moment. Et en tout cas, la remise en cause de la manière dont le pouvoir les traite n'a absolument pas été faite par la population birmane.
En effet, c'est pourquoi effectivement la demande des réfugiés Rohingyas sur quel sera leur statut à leur retour est essentielle avant ce retour. On ne peut pas les ramener dans un pays sans avoir un certain nombre d'assurances sur effectivement la place qu'ils auront dans la société et la possibilité de dialogue et de réconciliation nationale.
Mais eux réclament la nationalité, par exemple. Est-ce que ça vous paraît suffisant? Il ne s'agit pas d'avoir simplement une carte d'identité pour que cette réconciliation se fasse avec le reste du pays, non?
Oui, je crois qu'on l'a vu dans d'autres pays, effectivement, qui ont mis des années à travailler sur leur réconciliation nationale, mais c'est un pas essentiel.
Vous l'avez peut-être entendu comme moi, le vice-président américain Mike Pence, qui parlait lui aussi depuis le sommet de l'ASEAN, là, en ce début de semaine, a parlé d'une conduite inexcusable dans le traitement des Rohingyas. Il n'est pas le premier. Les pays asiatiques voisins ont donné de la voix aussi. Est-ce que quand même ces voix-là finissent par toucher, à votre sens de ce que vous en savez, la Birmanie et Aung San Suu Kyi, ou est-ce que ce sont des coups d'épée dans l'eau?
Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai pas suffisamment d'accès à ce type de personnes pour pouvoir commenter.
Est-ce que ça a du sens, selon vous, cependant, pour un pays comme la Birmanie, quand un vice-président américain ou quand les voisins disent que ce n'est pas l'attitude à avoir ?
J'imagine, enfin bien sûr, je pense que effectivement ce sont des voix qui s'entendent, mais voilà, je ne pourrais pas plus commenter que cela.
Comment, Florence Denis, comment vous travaillez, vous, dans ces zones-là ? Est-ce que vous pouvez travailler le mieux possible ? Vous parliez tout à l'heure de savoir ce qui peut se passer sur les fameuses listes de retour. Est-ce que vous avez un accès clair et sûr à tout le monde dans ces camps du Bangladesh ?
On a un accès vraiment très raisonnable. Évidemment, comme tous nos collègues, nous ne restons pas la nuit dans ces camps. Et c'est vrai que ce qui se passe la nuit dans les camps est un vrai problème. Je vais vous donner juste un chiffre. 24% seulement de la population a accès aux latrines la nuit. Pour des problématiques de protection, hein, pour des problématiques des jeunes femmes qui ne vont pas oser sortir de chez elles, pour plein d'autres choses. Voilà, donc nous, on a un accès pendant la journée et on a vraiment un très bel accès à toutes les populations, sauf quand ils sont paniqués et qu'ils ne veulent plus venir parce qu'ils ont peur qu'on les mette sur des listes. Mais oui, on a un accès à tout le monde et on peut effectivement les... Alors, le travail handicap, justement, c'est de les renvoyer vers toutes les organisations qui peuvent leur apporter des secours. Donc c'est vraiment l'essence même de notre travail, c'est de nous assurer de quels sont les besoins de ces populations. Donc on bouge beaucoup dans les maisons et dans les familles, en journée. Encore une fois, dans la nuit, c'est une autre histoire.
Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez, vous, les ONG collectivement, et les Nations Unies dans le même temps, est-ce que vous pouvez stopper ce rapatriement réellement, l'empêcher ou pas ?
Je pense que plus on sera nombreux à réclamer que les conditions soient suivies, les conditions réelles d'un rapatriement soient suivies, soient respectées, plus effectivement les gouvernements en question prendront le temps de mettre en place ces conditions. Et c'est important de parler, c'est important de faire savoir aujourd'hui que les conditions ne sont pas encore réunies.
Mais déjà, quelle sorte de réponse vous avez pu avoir ? Est-ce que vous avez eu au moins une réponse de la part des gens concernés, évidemment ?
Ce sont des réponses qui prennent du temps. Donc effectivement, on va voir ce qui va se passer demain. Je pense que ça va être très important demain, puisque c'est le premier jour officiellement de ce rapatriement. Et on verra si on a été entendu.
Eh ben, on suivra aussi, nous, savoir si vous avez été entendu, si effectivement ce long processus de retour, hein, parce qu'il faut le redire, Florence Denis, il ne s'agit pas de faire une marche arrière totale avec 750 000 personnes, ça se fait par à coup de quelques centaines au fur et à mesure, normalement, en tout cas, qui devraient être rapatriés. Ça commence demain, on verra ce qui se passe réellement sur le terrain grâce à vous, les ONG. Merci beaucoup, merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Merci à vous.
France Inter. Fabienne Saintès, Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde au Nicaragua, vous verrez que certains opposants à Ortega, les étudiants notamment, sont obligés de se cacher pour échapper à l'emprisonnement. Puis vous apprendrez ce que c'est qu'une manifestation express aussi, comme on en fait en ce moment dans ce pays. Sous les radars et Amélie Perry avec des nouvelles d'Ali Bongo, entre autres, avec la boxe thaï interdite pour les enfants en Thaïlande. On parlera aussi de café. Jean-Marc Four qui vient d'arriver, vous allez voir que ça va vous parler, cette histoire de café. Le cinéma en VO ce soir, c'est Eva Bétan qui a adoré Mon cher enfant de Mohamed Ben Attia. Ça parle de Syrie, ça parle de départ en Syrie, notamment comme nous les avons vécu nous. Donc ça se passe en Tunisie, mais très universel. Et puis Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
C'est l'Europe du Brexit qu'on regarde évidemment ce soir, mais vous, volontairement, vous avez plutôt l'œil sur l'Italie.
L'Italie, montrée du doigt par Bruxelles comme étant le mauvais élève de la classe. Et si ce cancre avait raison, en partie au moins.
Allez, à tout de suite, le tour de la planète n'est pas fini, il passe. Tiens, par Londres, justement, beaucoup de bruit à Londres en ce moment. Vous l'avez vu comme nous, avec L.A. Salami sur France Inter. Jean Isgon. The main door was left wide open, but I took the other. There were shouts and screams, and me, well, I was arbitrator. Sat myself in between he and his replacement mother. He seemed to be, so briefly, my good French brother. But the friendship is no longer on. Jean is going. He said he'd leave, he leaves me no other option.
but to put my loyalties up for adoption. And it seems to be to me that weed leaves lies forgotten. And we used to smoke those leaves oh so very often, often and for very long. His nose could smell that I was smitten with that girl from across the road. You see, I was love bitten. He'd tell me that he had my back and then my spine would stiffen. But I cursed when I learned this word weren't really worth a pittance. Both of them had led me on. Motivation to inspire him to be kind. I took a mental notation. These lies are no crimes of mine. My truths are on rotation. To be wise, I knew he'd provide all the right quotation. But his wisdom, it was just a con. So Jean is going.
Salamé sur France Inter. C'est terrible, j'ai failli l'appeler Léa Salamé. Du coup, je confesse cette mauvaise pensée. Léa, on t'embrasse si tu nous écoutes. Jean is gone, c'est le titre de la chanson. Jean est parti visiblement, mais Amélie Perrier est bien là, elle.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, Amélie, on commence avec un mensonge d'État au Gabon.
Mensonge d'État, les mots sont du principal parti d'opposition à propos de la santé d'Ali Bongo. Depuis près de 3 semaines, le chef de l'État est hospitalisé à Riyad, en Arabie Saoudite, mais les informations se font rares ou contradictoires. Ce week-end, le porte-parole de la présidence a affirmé qu'il était en phase, je cite, de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Mensonge et manipulation, dénonce Marcel Djabiot de l'Union Nationale.
Tout ceci semble être un camouflage. Un coup, c'est une fatigue sévère. Un coup, il y a eu saignement. Un coup, il est en train de récupérer progressivement ses capacités physiques. Il n'y a rien de clair. On ne peut plus leur faire confiance. Donc, pour que le doute soit levé, il vaut mieux composer une délégation suffisamment représentative de toutes les couches qui iraient sur place. Et en ce moment-là, l'information qui viendra de ce groupe sera plus ou moins fiable.
Voilà l'opposant Marcel Djabiot au micro de RFI.
Amélie, un mot sur les élections à Madagascar.
Que l'on continue de suivre ici sous les radars. Et là aussi, il est question de transparence. Parmi les 36 candidats, souvenez-vous, 3 ex-présidents. 2 sont arrivés en tête. Le 3e, loin derrière, jetait le doute sur la transparence donc du scrutin au lendemain du vote. La transparence, c'est l'enjeu majeur de la présidentielle après de nombreuses crises politiques sur l'île. Et désormais, même le premier, Andry Rajoelina, dénonce le manque de transparence. L'équipe du candidat, pourtant en tête du premier tour, n'approuve pas les résultats provisoires publiés ce matin et se retire du processus d'observation à suivre. Donc,
la Thaïlande pourrait interdire les combats de boxe aux enfants ?
Car c'est une pratique répandue là-bas, la boxe thaï, pratiquée dès l'âge de 7 ans. Au-delà du sport, c'est un filon juteux pour certains ou une manière de gagner de l'argent pour des familles pauvres. Écoutez ce petit garçon, il a 11 ans, c'est le champion de sa région, interrogé par Unreported World. Écoutez ce qu'il répond quand la reporter lui demande pourquoi il fait de la boxe.
What would you do with all the money you earned?
Moi aussi.
Oh, ça, il y a un peu de temps.
parce que je gagne de l'argent, il dit. Et quand elle lui demande ce qu'il fera de cet argent, il répond qu'il s'achètera une moto. Son père, juste derrière, le reprend. Une moto, c'est trop petit, choisit quelque chose de plus gros. Et là, le garçon, il dit un camion à 10 roues. Alors, dans ces régions très pauvres, la boxe fait vivre de nombreuses familles, mais c'est aussi un sport extrêmement dangereux. La boxe thaï ou muay thaï comporte très peu de règles, les coups sont violents. Et un boxeur de 13 ans, mis KO lors d'un combat, vient de mourir d'une hémorragie cérébrale. Il avait participé à 170 rencontres depuis l'âge de 8 ans pour gagner de l'argent pour sa famille. Sa mort fait réagir aujourd'hui. Le Parlement thaï examine en ce moment la législation pour interdire les combats avant 12 ans.
Amélie, l'Italie va mal, on en parle dans les journaux à cause du budget qui a été retoqué par la Commission européenne. Ouais. Et Jean-Marc Four y viendra d'ailleurs dans un instant dans Un jour dans le monde. Mais ici, il est question de tout à fait autre chose, un emblème italien réellement qui est en danger.
Mais c'est même un totem.
Toc, 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 toc. Buonasera, sono l'omino coi baffi, quello della caffettiera Mocha Express.
Da oggi la Mocha Express con Thermocrème fa un caffè che non conoscete ancora.
Vous avez reconnu, c'est la cafetière Bialetti, objet de la vie quotidienne en Italie. Le nom de l'entreprise familiale créée par Alfonso Bialetti sert même à désigner la célèbre Mocha, cette cafetière en aluminium octogonal. Vous en avez une,
Fabienne ? Mais évidemment, j'en ai plusieurs.
Mais alors le problème, c'est que les capsules ont fait beaucoup
j'en ai
de mal.
Aussi.
On peut avoir les deux, mais oui. Les capsules ont quand même fait beaucoup de mal à la Bialetti. Les ventes ont chuté de plus de 12% depuis le début de l'année. Les pertes ont été multipliées par 10 par rapport à l'an dernier. Le groupe ne peut plus payer les salaires. Elle doit des millions au fisc. Une audience était prévue aujourd'hui, mais le risque, c'est la faillite ou la vente à un groupe étranger. Les fondateurs se retourneraient dans leur tombe. Le fils du créateur de la Bialetti, Renato, lui, il avait demandé à ce que ses cendres soient déposées dans une cafetière géante, ce qui a été fait. Et le prêtre a béni
ça, le marre, alors.
L'urne cafetière à sa mort il y a 2 ans. Prodotto
Bialetti. Voilà. C'est fou ça. Mais vous savez ce que c'est le souvenir d'enfance, la Madeleine de Proust, quand on ouvre les cafetières Bialetti, quand le café est en train de monter, ça fait...
Le bruit. Ouais.
Voilà. Le bruit, c'est une Madeleine
de Proust. Garder
dans le haillon du coffre en allant sur la route des vacances.
Racontez-nous vos vacances.
Je pourrais tout vous raconter. On n'a pas trop le temps là et encore que.
Pas forcément.
Mais peut-être la prochaine fois, Amélie Perrier, sous les radars, tous les jours, dans Un jour dans le monde. À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Les routes France Inter.
Si no se le dio la bienvenida a la tropa yankee, tampoco le damos la bienvenida a estos grupos intervencionistas que se han formado ahí en lo de...
C'est au Nicaragua que nous emmène l'escale reportage d'Un jour dans le monde. La voix que vous entendez derrière moi, c'est celle de Daniel Ortega. Les Yankees ne sont pas les bienvenus. La propagande Yankee n'est pas la bienvenue. Un discours de la semaine dernière où les États-Unis, l'Europe aussi, sont accusés de manipuler les organismes internationaux qui l'accusent de répression. Peut-être que vous vous souvenez, on en a parlé ici même dans Un jour dans le monde, de ces manifestations d'avril dernier contre la réforme de la sécurité sociale. 330 morts. Au bilan, c'est ce que disent les ONG, une majorité d'étudiants, le chiffre est même peut-être encore plus important, on parle de 500 morts quand le régime d'Ortega, lui, en reconnaît, j'ai presque envie de dire tout de même, mais pas assez, on reconnaît 198. Bonsoir Emmanuel Steele.
Bonsoir Fabienne.
Ces dernières semaines, Emmanuel, le gouvernement, associé à des groupes paramilitaires, exécute une véritable chasse aux opposants. On dénonce des tortures, des mauvais traitements en prison également. Beaucoup de jeunes Nicaraguayens sont donc obligés de se cacher et sont nés ce qu'on appelle, vous allez comprendre exactement à quoi ça ressemble, des manifestations express. C'est là que vous nous emmenez, Emmanuel.
Erasmo Torres montre l'ordinateur portable qui lui sert de lien avec le monde extérieur. Cela fait 4 mois que cet étudiant vit caché pour éviter d'être arrêté par la police de Daniel Ortega. Il déménage d'une planque à l'autre, comme ici, dans ce garage transformé en chambre où l'accueille une famille d'opposants au gouvernement. Avec des centaines d'autres étudiants nicaraguayens, Erasmo forme un réseau clandestin de résistance au pouvoir. Au printemps, ils avaient occupé les universités pour s'insurger contre la répression sanglante des manifestations.
Ils nous ont chassés de l'université à coups de fusil. Nous avons dû fuir et à partir de ce moment-là, j'ai changé 7 fois d'endroit. Tous ceux qui ont participé à l'occupation de l'université de Managua, nous sommes tous recherchés. Ils nous traquent. Nous sommes répartis dans des maisons de sécurité. On ne peut pas sortir. On ne peut pas voir nos familles. La répression envers les jeunes est terrible. Ce régime veut à tout prix nous faire croire que tout est revenu à la normale. Mais il n'y a pas de marche arrière quand on prend la vie de 500 personnes. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'ils disent que les morts n'existent pas.
Toute trace de protestation a été gommée des rues de Managua. Aujourd'hui, seuls les graffitis à la gloire du couple présidentiel sont admis. Comme les morts, les prisonniers politiques sont rendus invisibles dans le discours officiel. Les prisonniers, Braulio Abarca les recense un par un. Dans son bureau du Centre nicaraguayen des droits de l'homme, une organisation indépendante, cet avocat explique que les étudiants détenus sont accusés de terrorisme par un gouvernement qui s'attribue le grand mérite d'avoir rétabli la paix.
Je ne comprends pas comment ce gouvernement peut parler d'amour, de pardon, de réconciliation, de paix, alors qu'il assassine les jeunes, qu'il séquestre des adolescents, qu'il manipule le système pénal pour les persécuter. C'est idiot de les accuser de terrorisme. On est censé croire que plus de 500 terroristes sont apparus depuis les manifestations d'avril, et ils étaient où tous ces terroristes avant le 18 avril ?
Face à l'interdiction de manifester imposée par le pouvoir, les opposants se rassemblent dans les églises. Dans la cathédrale de Managua, plus d'un millier de personnes réclament la libération des prisonniers. Pour avoir dénoncé la répression, les évêques nicaraguayens ont été accusés par Ortega de promouvoir un coup d'État. En ce dimanche d'octobre, l'église tout entière entonne le No Pasaran, l'un des hymnes de la révolution sandiniste qui avait renversé la dictature il y a 40 ans. Xochitl Villarreina, qui fait partie du mouvement étudiant, est convaincue que les Nicaraguayens continueront d'inventer de nouvelles manières de protester. Ce jour-là, les opposants plantent des croix dans le jardin de la cathédrale en hommage aux personnes tuées lors des manifestations. Le gouvernement a arraché les croix que nous avions plantées sur les ronds-points de la ville. Alors nous recommençons ici, explique Ivania. Son ami Ezekiel a été abattu de 3 balles alors qu'il filmait une offensive policière contre des manifestants. Dans l'Assemblée, plusieurs personnes conservent des séquelles de la brutalité policière. C'est le cas d'Anna Margarita Virgil, représentante d'un parti d'opposition déclaré illégal, blessée à la cheville lorsqu'elle a été arrêtée à la mi-octobre.
À mesure que Daniel Ortega se retrouve dos au mur, cerné par les protestations, il monte d'un cran dans la violence. Mais ce ne sera pas rentable pour lui. Nous, les Nicaraguayens, nous avons toujours réussi à sortir d'une dictature. Ortega ne sera pas l'exception.
À Managua et dans tout le pays, le pouvoir s'est arrogé le monopole des manifestations. Les militants du Front sandiniste, le parti officiel, et les travailleurs de l'État occupent les ronds-points de la capitale. Toute la ville murmure que ces manifestations ne sont pas spontanées mais rémunérées. Mais Fatima, qui affiche les couleurs du parti rouge et noir, dit professer un amour sincère et désintéressé pour Ortega.
Tout ce désordre a commencé avec la tentative de coup d'État orchestrée par la droite internationale. Qui finance l'opposition ? Les États-Unis. C'est l'impérialisme qui veut en finir avec le sandinisme.
Tout le Nicaragua est avec Daniel, proclame la chanson des pro-Ortega. Mais à 4h30, la journée des manifestants officiels est finie. En l'espace de quelques secondes, le rond-point se vide et les militants montent dans les bus qui les ramènent chez eux.
La chanson pour Ortega dont parlait Emmanuel Stiles à l'instant, c'est ça que vous êtes en train d'entendre. Emmanuel Stiles pour Un jour dans le monde, merci beaucoup, comme d'habitude. Et c'est pas fini le tour de la planète dans Un jour dans le monde, voici les Yardbirds, For Your Love.
Days that will excite to make you dream of me at night.
Jusqu'à la dernière goutte et la dernière note, For Your Love, les Yardbirds sur France Inter. 3, 2,
1, France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Le cinéma en VO et Eva Bétan. Eva, vous avez vu le film tunisien Mon cher enfant de Mohamed Benatia, sujet chaud s'il en est, des jeunes qui partent en Syrie, mais un sujet traité sans sentimentalisme, sans démonstration non plus, à travers une famille. Bande annonce d'abord. Eva, le but de ce film, Mon cher enfant, c'est pas de dénoncer les actes du fils, ni de comprendre comment il s'est radicalisé. C'est une histoire universelle, au fond, qui pourrait se dérouler à Paris, Dieu sait qu'on l'a connu, ou n'importe où dans le monde.
Oui, c'est une famille lambda, ordinaire et voulue comme telle d'ailleurs. Tout juste se dit-on que les parents sont bien âgés, le père prend sa retraite pour avoir un fils qui passe le bac, mais on peut imaginer aussi, à la sollicitude du père, l'enfant du miracle venu sur le tard. C'est leur cher fils, oui, un cher fils pour lequel il s'inquiète parce qu'il est des maux de tête et dont nous voyons la solitude. Il y a d'abord la vie quotidienne avec cette famille, le temps de s'attacher à eux, de se familiariser avec eux, une famille moyenne mais qui vit correctement, une famille qui sonne juste parce qu'elle est bien peinte. Et puis, c'est le coup de tonnerre pour les parents, mais aussi pour nous, spectateurs. Un matin, le fils n'est plus dans sa chambre. Il n'avait jamais parlé de Dieu, il ne priait pas, et il est en Syrie. Le film est bien construit parce qu'il y a des ruptures, il y a des hachures, mais la vie ne peut pas être linéaire après ça. Après, il y a la stupéfaction, après, il y a un père qui veut essayer d'aller en Syrie pour retrouver son fils. Et puis, il y a des détails qui nous font nous dire, par exemple, la réaction de la police, que les gens sont pas si surpris, que peut-être ce cas n'est pas un cas isolé. Il n'y a pas de conclusion dans ce film. Au nom de quoi Mohamed Benatia conclurait ? Dans son pays, en Tunisie, il y a eu beaucoup de chers fils qui sont partis en Syrie, jusque dans l'immeuble dans lequel, la résidence dans laquelle ils ont tourné. Écoutez-le, Mohamed Benatia.
Pendant le tournage,
On s'est rendu compte que le propriétaire même de l'appartement là où on a tourné, il a perdu ses deux enfants en Syrie et que dans toute la résidence, il y a 6 familles qui ont été touchées par ça. Donc c'est très commun, malheureusement, c'est très très commun de voir ça. Il y avait un père qui disait tout comme dans le film, mon fils n'est pas terroriste, mon fils c'est le beau gosse du quartier, l'autre... Son fils était un footballeur et qui sortait comme tous les jeunes, quoi. Ça touche toutes les classes. On a malheureusement cette mauvaise réputation d'être le pays qui détient le record des départs des djihadistes. Toute proportion gardée.
Par rapport à la population.
Ouais, c'est des statistiques qui le disent, malheureusement. Au départ, on pensait que ça touchait uniquement des classes défavorisées. Et puis après, on a vu que c'était des familles entières, des médecins, des ingénieurs. Donc c'est là où il me paraît assez absurde de retenir une conclusion et de s'appuyer sur un seul profil type.
Il n'y a pas la religion dans votre film. Ce jeune homme-là, on n'a rien à voir avec la religion.
On va pas effacer le truc et dire que c'est pas un sujet lié à la religion. Ça l'est. Forcément, ça l'est. Mais il y a des cas où ça l'est pas, justement. Et c'est ce cas-là qui m'a intéressé. Pour dire qu'il y a des gens qui se convertissent la veille de leur départ... que c'est plus une misère spirituelle qu'une misère religieuse.
Il y a une scène où des gens s'insurgent contre le fait que des gens qui sont partis en Syrie puissent revenir.
Mmh. On l'a vécu, à un moment donné, exactement comme on l'a filmé, à tel point que pendant le tournage, les gens qui passaient en voiture pensaient que ça allait être repris. Parce qu'à un moment donné, il y avait même des tentes qui étaient installées devant le ministère où il y avait les parents de certains djihadistes qui voulaient être rapatriés, parce qu'à un moment donné, le gouvernement syrien ne voulait plus de ces gens-là dans leur prison. C'était effervescent, c'est-à-dire qu'il y avait l'opinion publique qui est partagée. D'un côté, c'est tout à fait légitime d'avoir peur. On ne sait pas ces gens, ce qu'ils ont encore dans leur tête. Et d'un autre côté, on a les parents qui sont juste dans le besoin de revoir leur enfant. C'est cette confusion qui m'intéressait. C'est utile de dire que les choses sont beaucoup plus difficiles à trancher, quoi.
Oui, et c'est ça qui est intéressant justement, c'est cette complexité, c'est de ne pas trancher.
Allez, mon cher enfant de Mohamed Benatia, Eva Bétan, merci beaucoup, vous jugerez donc sorti en salle aujourd'hui.
Le 18-20, Fabienne Synthès. Sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, l'Europe est engagée dans 2 comptes à rebours simultanés. L'un avec Londres sur le Brexit. On va évidemment en reparler dans le journal de 19h. Ça, c'est vraiment tout chaud. Et l'autre avec Rome sur le budget italien. Ce deuxième bras de fer est un peu éclipsé par le premier, c'est vrai, mais il est très révélateur de la situation de l'Union européenne. Rome a décidé de braver Bruxelles. Et vous, ce soir, eh bien, vous vous demandez si Rome n'a pas raison, c'est votre monde à l'envers.
Bon, d'abord, on se dit, les Italiens ne manquent pas d'air, ils n'écoutent rien de ce que leur dit l'Europe. Hier soir, c'était donc la date limite pour qu'ils revoient leur copie sur leur budget 2019 et ils n'ont rien révisé du tout. Rome maintient la même prévision de déficit budgétaire, 2,4% du produit intérieur brut, et refuse de s'attaquer à la dette considérable du pays, 130% du PIB. D'où la crainte d'une spirale à la grecque, si vous voulez, italien solvable, effet en chaîne, crise financière en Europe. Et c'est vrai, ce risque existe. Mais là, on va se calmer un peu, on va boire frais. La situation italienne est en fait un peu caricaturée aussi à Bruxelles. D'abord, l'Italie ne va pas si mal que ça du point de vue économique. Si on met la dette de côté, le pays affiche un excédent commercial, donc il trouve des marchés, et son solde budgétaire, toujours hors dette, est excédentaire. Donc on n'est pas en présence d'une économie à l'arrêt. Soit dit en passant, sa prévision de déficit budgétaire, 2,4%, est inférieure à celle de la France, 2,8%, qui, elle, ne s'attire pas les foudres de Bruxelles. Je passe. Il reste, c'est indiscutable, ce sujet majeur de l'endettement italien. Mais cette dette est détenue en grande majorité par les Italiens eux-mêmes, les banques, les assurances, la banque centrale. Donc le potentiel effet domino sur l'ensemble de l'Europe serait limité. Ensuite, les grandes banques italiennes ont plutôt bien résisté aux dernières simulations de crash test, c'était il y a quelques jours, mieux que les Britanniques. Donc l'Italie peut affirmer qu'elle n'est pas la Grèce.
Sauf que Jean-Marc, quand on regarde ce budget d'un peu plus près, l'Italie propose des choses quand même assez iconoclastes.
Ah, mais le gouvernement italien, il faut le rappeler, c'est une alliance de la carpe et du lapin entre la ligue d'extrême droite et ce mouvement inclassable qu'est le mouvement 5 étoiles. Et ce gouvernement veut simultanément diminuer les impôts, augmenter les bas revenus et ramener l'âge de la retraite à 62 ans. Pour Bruxelles, c'est une stratégie économique condamnée à l'échec et qui va aggraver la dette italienne. Sauf que dans ce pronostic de Bruxelles, on sent aussi l'irritation de l'Union européenne face à un de ses membres qui ne lui obéit pas en termes d'orthodoxie budgétaire. Ça va plus loin. Ce budget met l'Europe face à ses contradictions économiques. Je m'explique. Il traduit le fait que le fonctionnement de la zone euro profite aux pays du Nord qui exportent massivement, regardons l'Allemagne, et ils exportent entre autres vers qui ? Vers les pays du Sud de l'Europe qui, eux, s'endettent. L'Allemagne, c'est le premier partenaire commercial de l'Italie. Voilà le cœur du sujet. La question que soulève le budget italien, c'est l'harmonisation des niveaux de vie en Europe. Si c'est ça le but recherché, et a priori c'est quand même un principe fondateur, il faut à minima achever l'union bancaire, pérenniser les mécanismes de solidarité financière qui font que, ben oui, d'une certaine manière, les plus riches vont payer pour les plus pauvres. Et à maxima, c'est plus audacieux, c'est plus risqué aussi, envisager une annulation partielle des dettes garantie par la Banque Centrale Européenne, puisque de toute façon, c'est très bien que ces dettes ne seront en grande partie jamais remboursées. Donc, en résumé, le budget italien est aussi un révélateur sur ce qu'est l'Europe aujourd'hui.
Donc ça, c'est pour l'économie, Jean-Marc, mais il y a aussi la politique, et là, les Italiens pensent aussi avoir raison.
Si on se place du point de vue cynique de la tactique politique, le gouvernement italien a clairement raison, il fait un bon calcul à court terme. Pourquoi ? D'abord, sur le plan intérieur, les dirigeants italiens ont tout intérêt à tenir tête à Bruxelles. Dans une Italie qui est devenue en bonne partie eurosceptique, c'est en fait un atout en vue des élections européennes de mai prochain. Ensuite, il n'est pas dit que la Commission européenne se fâche vraiment avec l'Italie. Elle va faire les gros yeux, ça c'est certain, mais de là à déclencher un processus de sanctions, il y a comme un doute. Un, les dirigeants européens ne veulent pas braquer les électeurs italiens. Des mesures de rétorsion venues de Bruxelles viendraient à coup sûr alimenter un nationalisme anti-Europe en Italie. Deux, la commission actuelle est affaiblie, elle est en fin de parcours. Elle n'est pas en position de force pour déclencher les hostilités. Elle laissera plutôt la patate chaude, si vous permettez l'expression, à la commission suivante, ce qui conduit à l'été prochain ou plus tôt. Donc d'ici là, l'Italie peut espérer garder la main, sauf si les marchés financiers lui mènent la vie dure.
Et ça, ce sera donc à suivre ici, bien sûr, et sur Inter. Merci beaucoup, Jean-Marc Four, tous les jours dans Un jour dans le monde.